Bien le bonsoir dans le prénom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ah ouais. Clémence, comment t'as fait pour être là? T'as pris l'avion? On t'a accepté dans l'avion. Dieu te bénisse. Seigneur bénisse. Allez, ce soir, nous parlerons un peu de ce que nous dit Paul chez les Romains, chapitre 12. C'est une exhortation de sa part. Poussé par le Saint-Esprit, Paul exhorte les Romains « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Vivant. Ça va? Donc quand vous venez ici, vous êtes bien vivant.
Amen.
Gloire à Dieu. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça va? Pour que ce culte soit raisonnable, vous offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, pas agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Amen.
Père Céleste, nous savons que c'est poussé par le Saint-Esprit que ton serviteur a écrit ces quelques mots. Et ces mots nous sont adressés ce soir. Si nous voulons être vraiment vivants ce soir, parce qu'il nous est dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et tu es le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Aussi, nous te remercions pour tout cela. C'est toi qui donnes la vie, c'est sur toi que nous comptons ce soir. Nous ne voulons pas être juste inertes, mais nous voulons vraiment vivre cette parole au fur et à mesure que nous la recevons. Que tu nous assistes en toute chose, que tu bénisses tes enfants ce soir, que tu inspires ta parole et que tu nous aides dans l'audition. Et pour les choses que nous t'avons demandées, des jours précédents, voire même aujourd'hui, ce matin, nous te demandons bien vouloir nous augmenter la foi, que nous puissions avoir cette foi qui croit que la chose demandée est reçue, que nous puissions en bénéficier ce soir et ainsi l'honneur, la louange, la gloire ne reviendront qu'à toi seul. Nous te demandons de bien vouloir nous pardonner nos péchés et nous conduire en toutes choses dans le précieux nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous t'avons adressé notre prière. Amen.
Amen.
Dieu bénisse. Pour les quelques minutes que nous sommes réunis, nous allons suivre cette exhortation. Soyez transformés. Nous disons souvent, si on prétend, si nous disons, nous affirmons que nous sommes fils ou filles d'Abraham, il y a aujourd'hui pour effectivement constater la filialité ou la paternité d'un individu, on procède, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle des tests d'ADN. Et le test d'ADN, si Dieu teste la foi, parce que la foi, c'est l'ADN du croyant. Un croyant, il n'a rien de plus d'autre que la foi. Vous savez que l'âme n'a qu'un seul sens. Soit c'est le doute, soit c'est la foi. Et quand c'est la foi, c'est qu'il n'y a pas de doute possible. Nous sommes en présence d'un enfant d'Abraham. Et ce test est concluant. Parce que quand Dieu teste la foi, le test va loin, souvent. Beaucoup font naufrage à cela. Mais le véritable fils d'Abraham, ceux-là, ils ne font pas naufrage, ils sont bien ancrés. Alors, ce soir, nous allons juste dire, soyez transformés. Cette transformation est la preuve que vous êtes en Christ. Si vous êtes en Christ, vous pouvez prétendre à toutes les promesses qui ont été faites à Christ ou à Abraham, si vous voulez, et Abraham et sa postérité est Christ. Alors, la transformation est un indicateur de ce que vous êtes réellement en Christ ou pas. Maintenant, c'est une condition nécessaire, mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres conditions. Ça, nous verrons cela une autre fois, parce que bon, le soir, nous n'avons pas beaucoup de temps. Et puis, de toute façon, beaucoup viennent du travail. On ne va pas trop vous fatiguer. Donc, cette transformation est indicatrice, n'est-ce pas, qui vous êtes, si réellement vous êtes en Christ. Et il y a un besoin de transformation pour ceux que l'apôtre appelle ici frères. Je vous exhorte donc frères, les frères de Paul. Et nous savons que Paul était réellement en Christ, n'est-ce pas? Selon quand il parle de lui dans 2 Corinthiens 12, il dit ceci, « Je connais un homme qui était en Christ, n'est-ce pas ?» Et nous savons qu'il s'agit de lui. Hein, c'était son expérience. Paul ne racontait pas l'expérience de Pierre. Il ne racontait pas l'expérience de Jean. Il racontait son expérience. De même, moi, je ne veux pas raconter l'histoire du frère Branham, son expérience. C'est une expérience merveilleuse, ses expériences. Mais moi, j'aimerais aussi vivre les miennes et raconter les miennes. Amen. Et il s'agit, c'est ainsi, c'est valable pour nous tous. Quand Paul dit, je connais, c'est au verset 2 de Corinthiens 12, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel, si ce fut dans son corps, et je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Aussi, nous comprenons par là que ce paradis se trouve dans le troisième ciel. Parce que c'est là-bas qu'il est allé et qu'il entendit des paroles merveilleuses. Il était pourtant très intelligent, Paul, mais il n'arrivait pas à exprimer ces paroles qu'il a entendues là-bas, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, nous avons besoin de transformation pour constater que nous sommes en Christ, et nous allons voir. Il n'y a pas que le passage que nous venons de lire, mais Paul le dit, et il s'appelle frère, n'est-ce pas? Quand vous dites frère en Christ, c'est votre frère qui est réellement en Christ avec vous. En quoi consiste cette transformation? Il nous dit, par le renouvellement de l'intelligence. L'homme intelligent, c'est l'homme qui sait qu'il y a un Dieu. L'insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu. Cela leur permettra, ceux qui sont transformés ainsi, parce que tant que vous n'êtes pas en Christ, il y a des choses que vous ne saurez pas, que vous ne pourrez pas faire. Par exemple, discerner la volonté de Dieu. Pour discerner la volonté de Dieu, il faut être en Christ. Hein, n'est-ce pas ? Le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, dans le but que vous discerniez, quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous n'êtes pas en Christ, eh ben, c'est inutile. Vous ne saurez pas discerner ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et cette transformation dit bien ce qu'elle dit. Ça signifie que si vous êtes transformé, c'est que vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Ça va ? Et c'est ce qui se passe lorsqu'on est en Christ. L'apôtre dit dans 2 Corinthiens 5, Mais François, est-ce que tu es en Christ? Je vais dire oui. Eh bien, si tu es en Christ, c'est que tu es une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans certaines Bibles, c'est écrit création. Bon. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai oublié. Vous savez, frère, moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai oublié ça. Ça va? Ceux qui se vantent toujours de ce qu'ils ont été avant et qui, s'ils le sont encore aujourd'hui, il y a un problème. Il faut avoir changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout le reste ne compte pas. L'apôtre Paul, il dit, c'est bien de dire que vous êtes circoncis, c'est bien de dire que vous avez abandonné les pantalons slim, là, moulant, c'est bien de dire que vous avez abandonné les jupes courtes, tout ça c'est très bien, mais en fait si le pantalon slim a été abandonné pour un pantalon normal, n'est-ce pas, classique, juste dans la même personne, il n'y a rien, la seule chose qui a changé, c'est l'apparence. C'est que la personne est toujours la même. Si la jupe longue est entrée dans une personne qui est toujours la même, elle a juste changé sa façon de s'habiller. Donc, c'est toujours la même personne. Les choses qui l'irritaient avant continueront encore à l'irriter. Amen. Les mêmes choses qui l'embêtaient encore avant continueront à l'embêter. Les choses qu'il ne supportait pas avant, il continuera à ne pas les supporter. Amen. Par contre, si vous êtes changé, là où tout le monde s'attend, celui-là, il s'irrite toujours facilement. Là où vous vous irritiez facilement, on constate que, au lieu de s'irriter, il vous dit de tout son cœur que Dieu vous bénisse. Vous savez que quelque chose a changé dans cette personne. Il y a un travail qui a été effectué dans cette personne. Ce n'est plus la même. Cette personne-là, même si sa maman biologique vit toujours, ou son père biologique, ben ils vont dire, mais si vous avez cru avant vos parents, les parents n'ont toujours pas cru, les parents vont aller raconter aux gens, mais mon fils a complètement changé. Il n'est plus le même avant. Même si vous avez changé en bien, Satan fera de sorte qu'il se fâche que vous soyez changé, que vous n'êtes pas comme ça. On ne vous a pas mis au monde comme ça, mais Christ vous a changé.
Amen.
Gloire à Dieu. faut, à un moment donné, il faut que ce que Satan pense que vous allez faire, que vous allez dire, allant influencer vos amis, vos frères, vos parents ou que sais-je, il faut que cela soit complètement, comment dirais-je, anéanti. Vous savez, Satan était certain d'une chose, qu'en s'attaquant, en se prenant à Job, que Job allait maudire Dieu. Il en était certain. Mais ça, c'était peut-être le Job d'autrefois. Mais quelque chose s'est passé en Job. Dieu a fait un travail en Job. Parce que Job n'est pas devenu comme ça de lui-même. Un homme normal aurait craqué. Devant ce qui lui est arrivé, un homme normal aurait craqué. Mais Job ne craque pas. Il crie, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je suis certain de cela dans la mesure où j'ai déjà été dans les deuils. J'entends parfois des gens pleurer et ils s'en prennent à Dieu. Ils s'en prennent à Dieu. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Job ne pose pas la question « qu'est-ce que j'ai fait ?» Il dit juste « il a pris, il a donné, il a repris, que son nom soit béni. » Et ça, Satan est complètement désarçonné. Que dans une telle situation, plutôt que de maudire Dieu, vous continuez à le bénir, à le louer, à le glorifier. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en vous. On a toujours dit, un chrétien n'est pas quelqu'un de normal, selon le monde. Ce sont des extraterrestres, les chrétiens. Ils se réjouissent pour des choses que les autres ne voient pas. Ils s'irritent pour des choses qui réjouissent les autres. Ou ils fuient toutes ces choses-là. Vous savez, pour Satan, Moïse n'était pas un homme normal. Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était promis à un grand avenir sur la terre. Et ses frères qui étaient là-bas, à Goshen, ses frères étaient esclaves et soumis à de rudes travaux d'esclaves. Un homme normal, il va se dire, oui, c'est vrai, ce sont mes frères, mais bon, moi je suis là, je suis bien ici, n'est-ce pas? Il aurait peut-être pu sauver son frère de sang, Aaron, et Myriam, sa sœur. Mais non, lui, il quitte carrément le poste pour aller vivre au milieu de ses frères. Il n'est pas normal. Il a eu tout ce qu'il lui fallait, toutes les formations qu'il fallait. Tout ce qu'on attendait, c'est que, bon, il soit en âge de pouvoir exercer. Maintenant qu'il est en âge d'exercer, il dit, moi, je n'exerce pas pour Pharaon, j'exerce pour Dieu, le Dieu de ce peuple-là. Les gens vont dire, on lui a jeté un mauvais sort. Ah, exactement, fiston. C'est exactement ce qu'on va... Ce type, je crois, on lui a jeté un mauvais sort. Non, mais Moïse était tout à fait normal. À tel point, quand il a fauté en frappant le rocher deux fois, Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Satan dit, bon, Dieu l'a puni. Mais en fait, il appartenait déjà à Dieu. Ça veut dire que vous appartenez à Dieu. Ça arrive que malgré que vous soyez venu à lui et que, bon, il vous ait baptisé de son esprit, que vous soyez en Christ, effectivement, ça peut arriver que vous fassiez encore des fautes. Mais ce n'est pas parce que vous faites des fautes que vous appartenez à Satan. Hein? Comme on a dit la fois passée, il y a quelque chose en vous qui va vous dire, là, tu as fauté. Et vous allez vouloir corriger. Alors, Satan était certain que Moïse lui appartenait. Qui fait, Dieu lui dit, monte sur la montagne, tu vas contempler le pays promis de loin, mais tu n'y entreras pas. Il discute même un peu avec Dieu, il supplie Dieu, laisse-moi entrer s'il te plaît. Dieu lui dit, ne me parle plus de ça. C'est décidé. Amen. Et vous et moi, si nous étions là, nous aurions dit, oh là là, Moïse est perdu. Mais Moïse n'était pas perdu. Amen. Satan a voulu aller chercher son corps. Dieu dit à Michaël, va me le chercher. Amen. Va me le chercher.
Amen.
Malgré qu'il ait péché, ce corps-là m'appartient. Mais c'est un corps qui a péché, il m'appartient. Il y a le sang de Jésus-Christ pour laver ce corps-là et le rendre pur. Et Dieu a dû ressusciter Moïse quelque part, puisque Moïse, des siècles plus tard, on le voit vivant, à côté du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et voilà. Moïse, quand il est descendu chez ses frères, c'était vraiment un Égyptien confirmé. Dans la sagesse des Égyptiens, c'est comme ça qu'il était, la connaissance des Égyptiens, la science des Égyptiens. Mais quand il a fui, pendant tout le temps où il a fui, il est allé dans le désert là-bas, le pays de Madian, eh bien, Moïse, pendant 40 ans, Dieu a changé Moïse. Ce n'était plus l'homme instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, c'était quelqu'un qui maintenant était prêt, n'est-ce pas, à faire le travail divin. Et Dieu l'appelle, Dieu ne regarde pas à l'âge, hein. C'est nous qui regardons à l'âge. J'en suis le premier, je le reconnais. Hein, frère François, frère, c'est l'âge, frère. C'est l'âge, mais Moïse, il avait 80 ans. Quand Dieu est venu le trouver dans le buisson ardent, selon la sagesse des Égyptiens, Moïse aurait pu dire à Dieu, « Seigneur, je suis devenu vieux. Quand j'étais vigoureux, j'ai voulu le faire, ça n'a pas marché. » Mais non, Dieu dit, « C'est toi que j'ai choisi pour aller parler à tes frères et à Pharaon. » À Pharaon lui-même, va lui parler de ma part. Dieu est plus grand que Pharaon. Donc, en Galates 6, 14, Paul dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. » Donc, par la croix de Jésus-Christ, le monde n'existe plus pour lui. Le monde est crucifié, inerte, comme je le suis pour le monde. C'est-à-dire, pour le monde, je suis mort. Paul aussi était quelqu'un qui était promis à un grand avenir. Paul était un premier de classe. Vous voyez ? Il dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. L'ancien, il est mort. Ou l'ancien a été complètement transformé. Oui. Vous n'êtes plus le même. Vous êtes désormais, avec les frères, un seul corps en Christ. Paul dit ceci. Paul dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Je ne suis pas n'importe qui, hein, moi, Paul. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Venez seulement, vous allez voir hein, quelle sagesse je possède. Moi, Paul, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, peuple élu, de la tribu de Benjamin. Il connaissait son pédigré. Hébreu, né d'Hébreu. Amen. Comme on dit au Congo, de père et de mère. Yes. Quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ça veut dire que vous avez appris. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et toute ton âme. Paul va vous dire, comme le jeune homme riche, je le fais depuis ma jeunesse. Tu ne voleras pas, Paul va vous dire, je le fais depuis ma jeunesse. Tu ne mentiras pas, je le fais depuis ma jeunesse. Tout ça, il le faisait. Il dit irréprochable. Vous ne pouvez rien trouver contre lui selon la loi. Donc vous allez dire que c'est injuste. Il est juste. Eh bien non.
Non.
Et pour lui, c'était vraiment un gain. Zélé pour ça. Ah, ce frère-là est vraiment zélé. Il est très zélé. J'aime son zèle. Mais c'était un mauvais zèle. Son zèle le conduisait à persécuter l'Église. Selon les chefs religieux de l'époque, selon ce qu'on enseignait, les enseignements de l'époque, cette persécution-là qu'il faisait semblait être légitime. C'est pourquoi, d'après lui, selon la loi, il était irréprochable. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous savez, le fait de connaître Jésus-Christ, ça vous change. Vous n'êtes plus la même personne. Tant que vous ne le connaissez pas, vous allez être un membre d'église, un membre d'assemblée. On viendra vous chercher, allons dans telle assemblée. Votre critère sera, ah, ici on chante bien, ici on danse bien, ici, on fait ceci bien, alors je préfère ici, vous y restez. Un autre jour, on va vous montrer maintenant une autre assemblée où on y danse encore mieux, on y chante encore mieux, et vous allez changer, vous allez partir. Eh bien, non. Le problème est de connaître Christ. Quand vous connaissez Christ, hein, il est dit dans Éphésiens chapitre 4, hein, n'est-ce pas, c'est ces frères-là qui ont été appelés comme, ils ont été appelés pour le perfectionnement, pour l'édification de l'Église et pour le perfectionnement des saints, afin que les gens, nous ne soyons plus flottants à tout vent de doctrine. Nous avons ici notre souci, c'est de servir Christ. Et nous avons notre souci, c'est pendant que nous courons, Hébreux 12 nous dit ça, c'est d'avoir constamment les yeux fixés sur lui. Et Paul dit, ben, quand je l'ai connu, j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout, je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Oui, alors, c'est se trouver, être trouvé en lui là, qui change tout. Parce que quand vous êtes en lui, vous êtes une nouvelle créature. Paul a été complètement transformé. Il dit aux Galates, il dit ceci, est-ce que vous me connaissez? Vous savez qui je suis? Galates, chapitre 1er. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, qui avaient déjà 10 ans de lecture de la Torah avant moi, mais j'étais plus avancé qu'eux. Que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Ne jamais confondre vos traditions avec la parole de Dieu. Il y a des choses que l'on fait par tradition. Si Dieu ne les condamne pas, on les garde, on les fait. Mais si Dieu dit ne les faites pas, on ne les fait pas. Tradition ou pas tradition, les parents ou je ne sais pas, les autres parents, les oncles, que sais-je, vont vouloir vous tenir ils vont essayer de vous avoir par l'émotion ou donc par sentiment, c'est le mot que je cherchais, hein, ils vont essayer de vous avoir par les sentiments, donc toi tu abandonnes les traditions de nos pères. Oui, je les abandonne. Voilà. Et tu abandonnes. Ça, c'est une religion de blancs. Où est-ce que c'est écrit? C'est une religion de blancs. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il lui plut de révéler en moi son Fils. Vous voyez le changement, où c'est arrivé? Parce que sur la route de Damas, c'était un Paul sur son cheval, n'est-ce pas? Orgueilleux, n'est-ce pas? Sur son cheval, il se croyait tout puissant, mais il a rencontré quelqu'un de plus puissant que lui. Et la première chose que Dieu fait sur le chemin de Damas, c'est d'abord de le faire descendre de son cheval. Descends un peu de ton cheval. Et il est descendu. Maintenant, on peut parler. Il était par terre. Alors, Dieu lui parle, le Seigneur lui parle, pendant qu'il est par terre. Il ne lui a pas parlé pendant qu'il était sur son cheval, hein. Il a fait tomber. Quand il était par terre, c'est là qu'il lui demande, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Vous voyez, il est en position de faiblesse, enfin, maintenant, parce qu'il regardait tous ces piétons-là de haut, hein, n'est-ce pas, quand vous êtes sur un cheval, vous êtes très haut. Là, maintenant, il y a quelqu'un qui est plus haut que ça, qui le regarde d'en haut, qui lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu que je persécute? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oui. Donc, c'est là que les choses ont changé. Et à chaque fois qu'il va raconter son expérience, il va le dire. Il va même à un moment donné se tromper. Lui, il ne sait pas. Bon, parce que. Mais je ne crois pas qu'il se soit trompé. C'est qu'il y en a qui sont venus lui dire, certainement, avec ceux avec qui il était, qui ont dû lui dire. C'est vrai, j'ai entendu une voix, mais moi, je n'ai pas vu de lumière. D'autres ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu de voix. À un moment donné, il va dire, ceux qui étaient avec moi ont entendu la voix, mais n'ont pas vu la lumière. Un chapitre plus loin, il va dire que ceux qui étaient avec moi n'ont pas vu la lumière, mais ils ont entendu la voix. Ce n'est pas une contradiction du tout. C'est que chacun voit et entend ce que ceux qui croient. Vous savez, c'est ce que je dis toujours. Hein. Quand quelque chose se passe ici, au coin de la rue, vous êtes 5-6 personnes là, au coin de la rue, vous regardez. Paf, et c'est quelque chose de grave. On vient maintenant demander qui était témoin de ce qui s'est passé. Vous vous présentez à 5, vous n'aurez pas tous la même version. Et pourtant, vous avez vu la même chose. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de recouper les versions afin de les rendre plus complètes. La version complète, c'est qu'il y avait une voix et une lumière. Ça, c'est la version complète. Pour d'autres, ils ont juste vu une partie. Mais lui, Paul, qui était concerné... Lui, il a eu les deux. Mais c'est là où quelqu'un va venir vous dire, mais moi aussi, je prie ton Jésus là, mais oui, mais j'ai quelque chose de plus. Moi, je ne vais pas suivre juste parce qu'on m'a parlé d'un Jésus qui est mort hein, dans des conditions atroces, et puis ben, par compassion, j'ai suivi. Non, je l'ai vu agir en ma faveur. J'ai vu sa main agir. Jésus est vivant.
Amen, amen.
Quand vous pensez parler comme ça, les gens pensent que vous parlez comme ça dans le vide, mais en fait, vous lui parlez. Amen. Oh. Paul dit donc de révéler en moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Et là-bas, tout ce qu'il a appris à l'école, là où il apprenait son judaïsme, là. Tout ça, c'était parti. Ça va? Il a reçu la révélation de qui est Jésus-Christ. Soyez transformés. Pierre, il avait, à un moment donné, juste une facette de qui était Jésus-Christ. Dans Matthieu 16, on connaît ça. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Chacun avait son point de vue. Ils répondirent, « Les uns ont leur point de vue. Ils disent que tu es Jean-Baptiste. » Ah bon ? Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Ou alors, ceux qui ne prononcent, qui ne donnent pas de nom, ils disent que tu es l'un des prophètes. Bon, ça, ce sont eux. Mais vous qui m'avez suivi, vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ici, il n'a qu'une seule facette. Mais c'est quand même une révélation, parce que Jésus lui dit, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui. Alors, à tel point que, ayant cette facette-là, oui, quand ils le suivaient, lorsqu'ils avaient recours à lui, ben, il venait, les apôtres, les disciples, ils venaient, ils l'appelaient, maître, nous sommes bons, maître, nous avons besoin de toi, frère, maître, augmente-nous la foi, ou des trucs comme ça. Et quand on vient l'arrêter, tous ceux qui étaient là, dans le jardin de Gethsémané, qui avaient vu des miracles, qui était là lorsque Pierre a fait cette confession, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre lui-même y compris. Jean qui mettait sa tête sur le sein du Seigneur. Eh bien, Jean également. Eh bien, dans le jardin de Gethsémané, quand ils sont venus l'arrêter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous pris la fuite. Même que Pierre, d'abord quand Jésus va dire... Le Fils de l'homme doit être livré et il doit mourir. Pierre dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Et tout cela, le Seigneur lui dit, Pierre, avant que le coq ne chante, il m'aura renié trois fois. Et pourtant, il avait cette révélation que c'était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu vas me renier trois fois avant que le coq ne chante. Et Pierre va suivre le cortège de loin, dont les disciples vont fuir, c'est dans Matthieu 26, verset 56. Ils vont fuir, mais Pierre va suivre de loin. Il va même oser entrer dans la cour du souverain sacrificateur. Quand il va arriver dans la cour du souverain sacrificateur, il y a une servante qui était là, que Satan avait placée là, juste pour que, parce qu'il en avait avec Pierre. Et le Seigneur les avait déjà prévenus, hein, dans Luc 23. Il leur a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. Dans Matthieu 26, cependant, verset 69, Pierre était assis dehors dans la cour. Il pensait qu'il était là incognito. Mais le travail de transformation avait déjà commencé. Pierre était un de ces, comment on dit, un de ces holy rollers qui avait suivi le Seigneur, n'est-ce pas ? Qui chantait peut-être plus fort que beaucoup d'autres, hein, certains cantiques, je n'en sais rien. La femme l'a reconnu, je ne sais pas, soit par son attitude, soit de par son apparence, soit de par... peut-être qu'il a parlé un peu, il parlait avec les gens, je ne sais pas. Une servante s'approcha de lui et dit, « Mais toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Vous voyez, comment dirais-je, la subtilité de son mensonge. Il ne dit pas « Je n'étais pas avec lui. » Il dit « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Mais c'est renié. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante, une autre arrive, le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, je le jure. Hein, comme les frères d'en face aiment bien jurer, je jure sur la tête de ma mère, de mon fils ou de je ne sais pas qui. Il jure toujours sur la tête de quelqu'un. Bien. Il dit, avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dire à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là. » Car ton langage, ton amène là que tu sors là, ton langage te trahit. On te dit quelque chose, tu dis amen. Oui, Dieu vous bénisse. Ça t'échappe, mais c'est ton langage qui te trahit. Ton langage te fait reconnaître. Tu ne te caches pas. Chez nous, à Kisangani, on dit tu te caches dans un champ de cacahuètes. Parce que vous savez, les cacahuètes, ça pousse, c'est jamais grand, c'est comme ça. Donc, quand tu vas te cacher, on te voit. On te voit. Alors, il se mit à faire des imprécations. Hein, c'est une malédiction. Hein. Et à jurer, je ne connais pas cet homme. Ça faisait trois fois. Le coq comptait. Hein. Un, deux, trois. Cocorico ! Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Alors, un homme comme ça, comment voulez-vous que le Seigneur l'envoie en lui donnant une commission aussi importante? Aller dans le monde entier, faites des disciples, n'est-ce pas? Et faites des disciples, annoncez la bonne nouvelle, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru, et ainsi de suite. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jusque-là, Pierre n'avait qu'une seule facette de la révélation. Et Pierre a tremblé devant cette femme. Mais quand ils ont voulu partir après la résurrection du Seigneur, Jésus dit non. Non, non. N'y allez pas maintenant. Attendez la puissance d'en haut. Attendez la puissance d'en haut qu'elle descende. Parce que nous entrons dans un corps par le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous entrons en Christ. Alors, maintenant, il y a eu la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, bien-aimé, ce n'était plus le Pierre tremblant. C'était maintenant un Pierre bien droit qui a ouvert la fenêtre complètement transformé. C'était plus le même homme. Il dit, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Dieu l'a élevé. Et il parlait tellement avec assurance que, et pas devant une simple servante, hein, pas devant ces servantes-là qui lui disaient tu étais avec lui, mais devant tout un Sanhédrin. Regardez qui était là pour l'écouter. Ça, c'était pour l'intimider. Chapitre 4, acte chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Le lendemain, regardez, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, n'est-ce pas, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, avec Caïphe, Jean, je ne sais pas qui c'est Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Vous voyez, tout ce monde-là, en habit d'apparat, devant un simple pécheur. Mais ce n'était pas n'importe quel pécheur, c'était un pécheur complètement transformé par le Saint-Esprit. Et c'est ça un chrétien. Vous pouvez être devant, je ne sais pas moi, un chef du peuple avec toute sa garde républicaine ou royale, que sais-je, devant vous, essayant de vous intimider. Mais concernant la parole de Dieu, vous ne serez jamais intimidé. Jean-Baptiste et Hérode croyaient pouvoir l'intimider, mais Jean-Baptiste n'était jamais intimidé. Hérodias l'a même menacé peut-être, mais ça, il s'en fichait complètement. Amen.
Gloire à Dieu.
Alors, c'est là que Dieu veut que vous et moi, nous en arrivions.
Amen.
Que nous puissions marcher sans crainte.
Amen.
Avant, nous étions peureux, nous étions craintifs. Désormais, nous ne le sommes plus. Nous vivons aujourd'hui différemment. Nous parlons aujourd'hui différemment.
Amen.
N'ayez pas honte de parler de l'évangile de Jésus-Christ.
Amen.
Vous vivez au milieu d'un peuple qui n'est pas comme vous. Vous êtes différent d'eux. Tout ce qui est en vous est différent d'eux. Pourquoi ? Parce que vous avez été transformé. Là où avant, vous frottiez les pieds de gêne avant de parler de Jésus, aujourd'hui, vous parlez de Jésus vraiment le torse bien droit, étant sûr de ce que vous dites.
Amen.
Vous n'êtes plus la même personne. Pourquoi ? Parce que Pierre, maintenant, lorsque il a parlé ainsi, Pierre avait eu une autre vision, une autre révélation, que Jésus-Christ n'était pas seulement fils de Dieu.
Oui.
Jésus-Christ leur a dit, allez par le monde, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ceux qui n'ont que cette facette-là du Fils de Dieu, ils vont continuer à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Pierre, il a eu maintenant la vision complète de Jésus-Christ. Il savait que c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ça l'a transformé. Sachant que, en fait, c'est ce Jésus-là, cet homme-là qui n'avait rien pour plaire, mais Dieu était dans toute sa plénitude en lui. Que rien ne pouvait lui arriver s'il lui était là. Et il leur a même dit, ne vous en faites pas, je serai avec vous tous les jours. Et ils savaient que le Seigneur allait être avec eux. On pouvait les mettre en prison, on pouvait les battre de verges, on pouvait faire toutes ces choses-là, ils restaient inébranlables. Avant, ils avaient peur des fouets. Là, les fouets ne leur faisaient plus peur. Au contraire, plus on les tapait, plus on les fouettait, plus ils étaient heureux. Heureux d'avoir été fouettés à cause du nom de Jésus-Christ. Si cela vous arrive, vous êtes heureux. Mais pourvu que ça soit à cause de lui. Amen.
Amen.
Ah, bon, je voudrais en arriver à ce stade-là. Ça, c'est ma prière, pas seulement pour moi. Je prie pour nous tous.
Amen.
Vous aussi, priez pour moi.
Amen. Hein,
prions les uns pour les autres.
Amen.
Que nous arrivions à ce stade-là.
Amen.
Que Jésus-Christ marche aujourd'hui la tête haute. Même si nous sommes au milieu de ces gens-là qui nous regardent bizarrement. Et nous, quand on se regarde, on se trouve normaux. C'est mon frère, c'est ma sœur. On est même fiers. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Et Paul aussi a eu cette révélation-là. Paul a baptisé au nom du Seigneur Jésus. Quand il est arrivé à Antioche, il a demandé, de quel baptême avez-vous été baptisé ? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? N'avez-vous même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit ? De quel baptême avez-vous été ? Ah, mais ça, c'est le baptême de Jean. C'était pour la repentance, disant, il faut croire en celui qui venait après lui. Alors, il les a baptisés, Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dieu nous donne cette pleine révélation. Afin que nous marchions dans la rue. peut marcher comme des ivrognes, mais tant que c'est l'impact de la révélation, il n'y a aucun problème. Tout ce que nous ne faisons que prendre possession de partout où nous mettons la plante de nos pieds. Toutes les promesses sont en nous. Quelqu'un qui est en Christ, il marche comme un homme qui est ivre. Il va à gauche, il va à droite, parce qu'il foule de la plante de pied tout le territoire que Dieu lui a donné pour prendre l'entièreté des promesses, vous en approprier. Telle est notre prière ce soir. Nous puissions être placés justement là. En Christ, Dieu nous y place et que nous puissions prendre possession de toutes les promesses. Fais-le pour mon frère, s'il te plaît. Te le demande pour ma sœur ici présente. Pendant que tu le feras avec eux, dis pas père. Fais-le pour tous nos frères et nos sœurs qui auraient voulu être parmi nous ce soir. Que tu les bénisses. Que tes promesses s'accomplissent en eux pour ta seule gloire. Ta louange, ton saint nom. Merci pour nous avoir réunis ce soir. Merci pour toutes les bonnes choses que tu nous as données. Te disons aussi merci pour les mauvaises choses que nous avons reçues. Merci pour les épreuves, merci pour les victoires. Que ton nom soit loué, parce que nous puissions porter ton nom d'une manière digne de la vocation que nous avons reçue. Cela, nous avons besoin de toi. Pour cela, nous avons besoin que tu nous tiennes par la main, comme tu l'as dit aux disciples autrefois, que tu sois aussi avec nous comme tu as été avec eux. Plus tard à venir, nous te remettons la réunion de prière vendredi. Sois au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.